Madame Blancheville va être fière de moi!
Qu'est-ce que t'as fait?
J'ai lavé mes armoires puis mon four hier!
Hey, la laver le four, là, ça, c'est toute qu'une mission, hein?
Puis ma hotte de poêle!
Ah ouais, c'est
hey, j'ai découvert sur Internet, grâce au compte Instagram que je suis, là, des filles qui font le ménage, là.
Oui?
Go Clean Co. C'est, pour vrai, c'est une passion. C'est devenu une passion pour moi, faire le ménage, tant mieux. Il y a un mix que tu peux faire, là, qui lave toute ma fille. Mais toute, là! C'est un peu fort, mais c'est parfait. Puis c'est toutes des affaires qu'on a. 4 tasses d'eau brûlante, OK? Une cuillère à thé de Tide en poudre. 3 cuillères à thé d'eau de Javel.
Ouf, OK. C'est...
Hey, ça lave, ma fille!
Non, mais c'est sûr.
Ça te désinfecte.
Faut-tu mettre des gants?
Non, pas toutes.
Oh, non?
Yep, hein, non, c'est 4 tasses d'eau, c'est quand même pas mal. Là.
OK.
Tu sais, c'est... très, très dilué. Écoute, j'en ai même échappé sur mes pantalons. Ça n'a pas détendu.
T'es-tu sérieux?
Ah oh, ouais, non, mais fait, c'est pas en grande quantité. Eh bien, moi, j'étais content, mais le chat à côté tripait sa vie. Les chats puis l'eau de Javel, là, elle se roulait à terre. Ah oh, ouais, écoute, c'est la folie furieuse. C'est, et puis ça lave bien, là, puis t'as pas besoin de frotter tant que ça, mais faut vraiment que ton eau soit chaude. Bref, si ça vous tente de faire du ménage puis d'essayer quelque chose, vous essayerez ça. Je pensais pas parler de ménage, mais écoute, c'est arrivé. On est tous debout en retard, ça commence maintenant.
En semaine 5h25, écoutez, on est tous debout en direct sur l'application iHeartRadio à rougefm.ca et à Rouge.
On est tous debout.
On hérite des qualités et des défauts de nos parents pas mal plus qu'on pense.
Oui, et il y a toutes sortes de traits de personnalité ou encore de traits tout court qu'on obtient de nos parents sans trop le savoir. Par exemple, la tolérance à la douleur.
Ah ouais.
C'est héréditaire et ça vient de la couleur des cheveux.
Arrête donc, toi!
Puis, moi, j'avais déjà entendu ça. Les personnes rousses sont plus tolérantes à la douleur. Ben, c'est vrai.
Oh, ouais.
Les personnes rousses ont tendance à moins sentir les douleurs poignantes, à être en mesure de les endurer davantage que les blonds ou les bruns.
Hey.
Et comme on sait que le roux, c'est héréditaire, ben, la tolérance à la douleur le devient aussi.
Et puis, la tolérance à la douleur, il y a des gens qui ne ressentent pas la douleur. Hein?
Oui,
c'est
ça,
vraiment...
c'est un autre problème.
C'est un sérieux problème. Ouais. Ça réduit leur espérance de vie parce qu'ils sentent pas quand ils ont des bobos. C'est fourrette. Parenthèse.
OK. Le fait d'éternuer au soleil.
Ah, regardez la lumière, là, puis ça nous fait éternuer.
Ça, là, c'est une recherche qui a gagné un prix, d'ailleurs, pour le trait héréditaire le plus spécial.
Ah,
parce qu'on a découvert que les gens, puis moi, je fais partie de ces gens-là, dès qu'il y a un petit peu trop de lumière ou que
t'es ébloui, là.
Je sors d'une pièce sombre, je me mets à éternuer.
Ah, ben,
ça, c'est héréditaire.
Arrête donc!
Pourquoi? Je sais pas.
OK, c'est pas genre, t'as le goût d'éternuer, regarde la lumière, ça va t'aider. C'est, tu sors dehors, t'es ébloui, t'éternues, ton corps se défend, puis c'est ça, c'est un trait de... Ah, c'est bizarre.
Si vous avez un parent qui fait ça, mais vous avez une chance sur deux d'en hériter.
Hey.
Là, ça va te parler. L'amour ou la haine pour l'exercice physique?
OK.
C'est héréditaire. Peux-tu croire? Je sais pas si dans ta famille... Pourtant, je pense que t'as des parents, t'as un père, en tout cas, qui est quand même assez actif.
Oh oui, c'est...
T'as peut-être pas hérité de son gène à lui.
Ma mère aime moins ça, par exemple, je vous dirais. Elle est quand même en forme, c'est ça le pire, mais c'est juste, c'est pas dans nos valeurs.
Si vous êtes pas capable de vous entraîner, vous avez de la difficulté à faire un effort physique, c'est peut-être dans vos gènes. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a certaines personnes qui ont un gène qui interfère avec la libération de la dopamine. Puis s'il y a quelque chose qui est le fun dans la vie après un entraînement, c'est qu'on se sent bien.
Oui, c'est
puis
ça.
On recherche encore cette sensation-là. Donc, on se motive à s'entraîner de nouveau. Mais il y en a qui ne sentent juste pas la dopamine.
OK. Fait que c'est ça que tu es en train de me dire. Chez nous, la dopamine ne se génère pas après l'activité physique.
C'est ça que tu me dis. Peut-être que t'es pas capable d'avoir du plaisir, à te retirer du plaisir à t'entraîner.
C'est clairement ça, parce que moi, après de l'activité physique, j'ai pas de dose de dopamine. Je suis juste, bon, ben c'était désagréable. Fin.
autre chose, bon, ça c'est plate, mais écoutez, ça fait partie de la vie, l'infidélité.
Arrête,
Oui. À cause des côtés, en fait, de l'empathie développée ou non, ben, on s'est rendu compte, puis c'est auprès des adultes, ben, des humains, des animaux aussi, qu'il y a un gène qui fait en sorte qu'on a tendance à être plus infidèle.
Ah, ça veut dire que génétiquement parlant, on est programmé pour avoir des émotions que les autres n'auraient peut-être pas. Donc, si nous, on a beaucoup d'empathie, généralement, on n'aura pas tendance à sauter la clôture.
Non, généralement, non. Ben, c'est sûr que ça dépend aussi toujours de la façon dont tu as été élevé.
Oui, c'est
suivi. Mais on a fait un lien direct avec, avec ça. Et enfin, et ça c'est particulier, l'obsession pour la caféine.
Ah ben là, par exemple.
Si vous avez besoin de café, c'est peut-être parce que vous avez hérité ça de votre père ou de votre mère. À l'inverse, si vos parents ne boivent pas beaucoup de café, il y a peu de chances que vous soyez porté à en boire beaucoup.
Ah ouais.
Parce que notre corps métabolise la caféine de différentes façons.
C'est vrai, il y a du monde que ça fait pas pantoute.
C'est ça.
Hey.
Donc, c'est héréditaire. Si on est accro au café, c'est probablement parce qu'on a un parent qui l'est aussi.
Je te confirme, j'ai tout de ma mère, ça a l'air. Amy, ça t'arrive-tu de mentir à ton chien?
Ben non.
Non, tu es honnête avec.
Ben là, je vois pas pourquoi je mentirais à mon chien.
Ah, ben tu sais, des fois, pour lui dire, hey, fais telle affaire, je vais te donner telle affaire, puis...
Ah, ben oui, ben des fois, je fais des... Ah ouais, des fois, je fais des petits tours de passe-passe, c'est vrai. Ouais, c'est vrai.
Ton chien le sait.
Ah ouais?
Oh oui, il sait. En fait, on s'est rendu compte que les chiens savent davantage quand leur maître ment que quand un enfant de 5 ans et moins interagit avec nous. C'est donc dire que le chien a davantage d'aptitude à détecter le mensonge qu'un enfant en bas âge. Okay. On a fait faire un drôle de test à 260 chiens et également beaucoup d'enfants de moins de 5 ans. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis deux bols, OK? Dans un des deux bols, il y avait de la nourriture. Puis là, on présentait ces deux bols-là, autant à l'enfant... Au chien. On faisait ça séparément. Là. Après ça, on cachait les bols. Puis il y a une personne qui arrivait, qui mettait les bols qui étaient cachés. Et on disait soit au chien, soit à l'enfant, « Ah, la nourriture est dans lui. » Le chien se fiait jamais à ce que l'être humain disait.
Ben ça, c'est normal.
Mais l'enfant se laissait berner et acceptait quand il y avait un lien de confiance qui était bâti. Mais le chien est très, très, très... il va s'écouter lui-même avant d'écouter les autres.
Ouais, mais en même temps, je comprends pas ton étude.
Ben après, en fait...
Parce que, je veux dire, le chien, là, il sentait juste qu'il n'y avait pas de bouffe. Là. Ça sent, là.
Non, c'était juste une question. Il sentait pas. Il pouvait pas sentir sa distance. Okay. Fait que c'était juste le lien de confiance.
Ah, OK, ça me rassure.
C'était vraiment juste le lien de confiance. Alors... on s'est rendu compte que le chien vraiment a des capacités à détecter le mensonge, mais il ne le fait pas forcément sentir à l'être humain. C'est ça qui est embêtant.
Ah ben.
C'est qu'il est comme rapace en même temps. Tandis que l'enfant, lui, a pas d'inhibition.
Ouais.
Il va le croire ou il le croira pas, mais il jouera pas de jeu. Tandis que le chien, lui, il joue le jeu puis il est comme, je le sais que tu mens, salaud. Alors, la prochaine fois que vous allez essayer de bourrer votre chien de menterie, dites-vous ça parce qu'il va peut-être retenir ça contre vous à un moment donné puis vous faire sur la place.
Bon.
Les plexiglas, on est en train de réfléchir à les enlever éventuellement parce que la situation s'améliore en ce qui trait à la COVID-19, mais tu sais, on en a tellement acheté, il y en a tellement partout. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que ça prend de la place.
Ça prend de la place, puis je lisais un article très intéressant de Radio-Canada qui parlait d'un organisme environnemental au Kamouraska qui s'appelle CoEco qui a de plus en plus de demandes de citoyens pour réutiliser les fameux panneaux de plexiglas.
Ouais.
Parce qu'il y en a énormément partout dans les commerces, puis on veut pas voir ça enfoui à jamais.
Ben non, hey!
Parce que c'est polluant. Ça se défait-tu dans la nature du plexiglas? C'est bon, je sais pas, ça doit être long. Donc, c'est ça, on essaie de trouver des façons de le réutiliser. Il y en a quand même quelques idées qui sont ressorties.
Okay.
Comme par exemple pour faire des petites serres.
Ah ben oui!
Ou encore, il y a certains agriculteurs qui peuvent se servir de ça pour faire quelques réparations toutes sortes,
okay.
pour aider leurs infrastructures. Mm-hmm. Évidemment, on peut faire de l'art aussi avec ça. On peut faire plein de choses. Alors, l'organisme CoEco travaille avec les citoyens pour justement trouver des façons de réutiliser les plexiglas. Parce que, bon, est-ce qu'ils sont là pour rester? C'est la question qu'on se pose. Dans les commerces, j'ai comme l'impression qu'on va peut-être décider d'en garder quelques-uns.
Ben oui, probablement.
Mais si jamais on décide de tous les enfouir et les retirer...
Ah non, là, faut trouver un usage à ça.
Moi, ça me donne mal au cœur de penser que ça va s'en aller au dépotoir. Tu sais, déjà qu'on a les masques qui sont une source de pollution incroyable. Si on peut réussir à réutiliser les plexiglas, ben tant mieux.
Il y a certainement quelque chose qu'on peut faire avec ça. Il y a certainement une idée qu'on n'a pas eue par rapport au plexiglas. OK, c'est du polycarbonate, c'est dur à recycler, on s'entend. Mm-hmm. Parce que dans sa forme, c'est en verre, c'est en transparent dans sa forme actuelle. Tu le fais fondre, c'est sûr que sa forme change puis son usage va changer. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le plexiglas? Avez-vous quelqu'un de bidouilleux dans votre famille qui a réussi à réutiliser ça à un moment donné d'une façon créative? C'est le temps de se partager l'information puis collectivement trouver quelque chose de le fun à faire avec ça parce que, hey, on va en avoir sur les bras, s'il vous plaît, puis il faut pas envoyer ça dans la terre, franchement.
Non, ben non.
C'est sûr qu'il y a quelque chose qu'on peut faire avec ça.
TJ connaissant, il va parler de bébé.
S'il y a bien une place dans le monde où est-ce que j'irai jamais en vacances, c'est en Australie. Parce qu'en Australie, on dirait que c'est là l'incubateur des pires bébites sur la planète.
Ah ben c'est vrai, on voit des affaires, c'est tout le temps en Australie.
Il n'y a aucune chance que je veuille me perdre dans la forêt australienne.
Ah non,
là.
Écoute.
Je veux dire, ici, on a des tiques là-bas, et on a probablement des tiques la grosseur des ours. Puis on les a pas découverts encore.
Des ours!
En tout cas... En Australie, cependant, il y a des chercheurs qui ont fait une jolie découverte et ça a apparu dans le magazine Circulation qui parle de la santé cardiaque. On a découvert, en fait, on sait qu'il y avait une araignée très dangereuse qui s'appelle la Atracidae, OK?
OK.
C'est une araignée à toile entonnoir qui est considérée comme l'une des plus dangereuses au monde. Leurs crocs sont si puissants, Amy, là, que... sont capables de pénétrer des ongles. Donc, c'est si... OK,
oh,
oui, ça vient de piquer. La peau, c'est une chose, mais les ongles, là... Fait que ça mord, hein, s'il vous plaît.
Okay.
Et là, quand ils injectent... Parce que oui, hein, c'est une araignée venimeuse quand ils injectent leur venin. Ça immobilise leur proie et c'est en mesure d'immobiliser l'être humain. Donc, ça nous rend comme...
Ça nous paralyse.
Ça nous paralyse directement dans le système nerveux. OK? Puis c'est une petite araignée là, qui a l'air de rien. Slang! C'est réglé. Bon, maintenant, t'es paralysé. Ben après ça, l'araignée te mange. Évidemment,
l'araignée
s'attaque
te mange.
Ben là, c'est surtout pour les petites
proies. La grosseur que ça a.
C'est ça. Ça fait juste... Ça peut être mortel pour l'être humain quand même parce que ça s'attaque au système nerveux central. Mais les scientifiques se sont intéressés à leur venin qui est très puissant. Il y a une seule molécule dans toute la composition du venin qui est mortelle. Les autres, c'est des inhibiteurs au niveau du système nerveux. Ça envoie donc un signal aux cellules que... en fait, ça dit aux cellules de ne pas s'occuper des cellules. Mon Dieu, c'est dur à expliquer. Je ne suis pas scientifique. Le venin qui est injecté dans le corps humain, OK?
Il vient de se lever de sa chaise et il craint qu'il va rire.
Le venin nous paralyse.
Ouais.
Mais dans le reste du venin, il y a des molécules qui disent au corps « Occupe-toi pas de ça, il n'y a pas de problème. » Alors, les scientifiques ont pris ces cellules-là qui disent au corps humain « Occupe-toi pas de ça, il n'y a pas de problème. » Puis on s'est dit « Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme médicament avec ça? » Puis ils se sont rendus compte, OK, que les gens qui ont des crises cardiaques, si on leur injecte une partie de ce venin-là sans la portion mortelle...
Occupe-toi pas de ça, il n'y a pas de problème, tu fais une crise cardiaque. C'est
exact.
Ça? Ben oui, mais c'est grave.
Non, c'est pas grave, parce que ce qui arrive, c'est que le cœur est en mesure de guérir plus vite.
Ah.
Parce que quand on fait une crise cardiaque, notre cœur, il y a des cellules qui sont considérées comme mortes, donc ça génère une autodestruction du reste du tissu du cœur.
Okay.
Mais quand on injecte une partie de ce venin-là, ben ça vient stopper justement le système d'autodestruction du cœur, puis ça aide les gens à guérir plus vite de leur crise cardiaque. Et même que c'est vraiment un grand facteur favorisant pour ceux qui ont une transplantation cardiaque. Ça éviterait d'avoir
des rejets.
C'est ça, c'est un genre de anti-rejet, si tu veux. Alors, c'est pour ça que cette araignée-là suscite l'attention. J'espère que je suis parvenu à l'expliquer de façon assez convenable.
C'est un peu compliqué là, à 6h10 le matin.
C'est vrai,
mais
j'avais pas pensé à cette heure-là.
Moi, j'ai tout fait. J'ai tout donné pour te comprendre.
Ouais.
Maintenant, je suis plus capable de rien faire de la journée.
Merci. Extraordinaire.
Mais c'est très intéressant.
Ah non, mais écoute, c'est pour ça que je garde ça à cette heure-là, parce que je sais que les gens qui sont stimulés psychologiquement, qui sont intéressés par nos propos compliqués, se sont déjà levés à cette heure-là.
Ah, eux autres,
parce que
là, sont craqués.
L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Puis là, tous les cadrans qui lèvent sont comme, de quoi qu'ils parlent, eux autres? Mais on est comme ça! Bon réveil!
En semaine 5h25, écoutez, on est tous debout. Avec Émilie Gagné et Jerry Castonguay. En direct sur l'application iHeartRadio, à rougefm.ca et au 102.9 Rouge.
Rouge!
Des bines, des œufs, du bacon, du jambon, des protéines le matin.
Miam, miam.
C'est ce que ça nous prend, la gang.
Le déjeuner de la construction.
Tu sais, là, le. Ouais, le oui.
La
oui,
totale.
Oui, oui, tu sais, là, le gars de bois, là, le déjeuner du bûcheron, etc. Tu sais, le brunch le matin, là, avec du fromage, puis envoyé par là. C'est parfait, ça, la gang. Si on veut manger un repas riche comme ça, là, c'est le matin qu'on le fait.
Ben oui.
Pas le midi parce qu'on s'endort, puis pas le soir parce qu'on a des sueurs nocturnes. On s'est vraiment rendu compte que manger quelque chose de riche et protéiné et gras est beaucoup moins nuisible au premier repas de la journée qu'à la fin de la journée. Mais parce que
t'as toute la journée pour le digérer.
Ben, première chose. Mais deuxième chose, c'est que notre métabolisme est conçu de façon à utiliser les nutriments au courant de la journée. Puis on a tendance à utiliser ces nutriments-là pour construire des muscles pas mal plus le jour que la nuit. Vous allez me dire, ben c'est bien évident, on bouge la nuit, on bouge le jour.
Ouais.
Oui, mais encore plus, si on mangeait la même affaire tous les jours, là, le même repas matin, midi, soir, on verrait vraiment là qu'on prend du muscle en faisant pratiquement rien en mangeant des repas très riches en protéines le matin. Alors, si vous avez un choix à faire, si vous êtes toujours dit « Ah, mais c'est ben trop lourd le matin, ça m'aidera pas », reconsidérez, parce que les scientifiques le disent, si vous avez à manger des protéines et du gras, c'est le matin que ça va être le moins nuisible pour vous.
Ça dépend à quelle heure on a faim aussi, parce que moi, je suis vraiment de la mentalité de je me force pas à manger, je mange quand j'ai faim.
Ouais,
moi, si j'ai faim pour déjeuner à 9h le matin puis que je suis déjà au travail, je peux pas commencer à me cuisiner un brunch.
C'est ça qui est plate,
mais il y a des options.
Ouais.
Comme les œufs cuits durs.
Comme, c'est vrai.
Tu peux te faire un petit sandwich déjeuner à réchauffer un petit peu.
Ouais, avec du jambon, avec du bacon déjà prêt.
C'est ça, t'sais. Exact.
Ouais, ouais. C'est vraiment, c'est la manger riche plutôt mieux c'est. De toute manière, là.
Mais
qui c'est qui se fait un brunch le soir?
Mais c'est vrai, quand tu manges un gros déjeuner, là, tu sais, là, moi, c'est la fin de semaine. Puis là, c'est envoyer les œufs, envoyer le bacon, les avocats, le fromage, toute la kit. Hey, je suis rassasiée, là, pour ma journée.
Tu sens bien la fin de semaine, hein?
Ben oui, on se sent bien. Ben, on a de l'énergie, là.
Peut-être juste parce que tu travailles pas. Émy, dis-moi la vérité. C'est quand la dernière fois que tu as lu un livre?
Ben, ça fait pas longtemps.
Ah ouais?
Ben, je suis en train d'en lire un.
C'est quoi?
C'est un livre d'Amélie Dubois.
Ah oui, puis c'est-tu bon?
Ben oui.
Puis toi, tes livres, t'es lis-tu en papier ou?
En papier, en papier.
Et pourquoi? Explique-moi pourquoi,
cher. Je sais
pas
pourquoi.
Ouais.
Mais on dirait que je suis incapable de lire sur une tablette.
OK.
Je sais pas. Tu vois,
moi, mes livres, là, je les lis. Hey, vous allez trouver ça bizarre sur mon téléphone. Une application,
ah,
ça
non,
s'appelle Google
ben trop
Play
petit.
Livres. Mais. Ouais, mais en même temps, pas tant. Tu sais, tu peux grossir le texte si tu veux. Ma blonde a une liseuse numérique et elle ne jure que par ça maintenant parce que c'est super pratique. Parce que, ben, tu sais, l'écran peut être, ça s'appelle paperback, pas paperback, mais paperwhite. Tu peux utiliser ça comme, ça ressemble vraiment à du papier. C'est comme de l'encre, pour vrai. Il n'y a pas de lumière qui est émise par ça.
Tu tiens quand même un truc électronique. Ah, ouais.
Les deux sont très appréciés des lecteurs pour des raisons complètement différentes. Il y a des sondages qui ont été faits et encore aujourd'hui, même avec l'immense offre numérique, les livres en papier ont toujours la cote.
C'est le fun de tenir un livre, tu sais.
C'est la première raison qui sort.
Puis là, tu le vois, puis là, tu vois que tu avances dans le roman. Puis moi, des fois, j'aime ça aller voir un petit peu plus loin.
Tu es capable de faire ça avec un livre numérique.
Ouais, mais.
C'est moins naturel.
Ouais. J'aime ça utiliser des factures comme signets, tu sais, n'importe quoi.
Des affaires qui traînent chez vous. Le chien, mets-les dans le livre.
Tu sais, on dirait que. Puis tu vois, plus tu lis le livre, plus son état se dégrade. Moi, c'est ça. Là, parce que bon. Soit que je bois du thé en même temps, ou de la bière, ou du vin, ou n'importe quoi.
Mon Dieu, puis, tu bois beaucoup en lisant?
Ben, on dirait que c'est le fun.
Ben oui, un petit verre, un petit café,
une petite tasse de café.
Oui. Ben, tu vois, il y a des gens qui ont un rapport émotif avec le livre
bon,
en papier.
Ben, ça doit être
c'est la
ça.
Raison principale, en fait. Parce que tenir un objet, c'est cool. Mais une des raisons aussi, qui est très 2021, qui m'a beaucoup fait rire dans le sondage qu'on a fait, c'est ça me permet de shower off dans ma discussion Zoom ce que je lis dans ta bibliothèque en arrière, etc. Ouais. Il y a des gens qui comme
décor, tu
veux
dire.
Ben oui, tu mets ça dans ta bibliothèque en arrière.
Beau, une belle bibliothèque pleine de livres.
Il y a d'autres raisons aussi. C'est possible de les acheter usagés, pas mal plus facile.
Ben oui.
C'est possible de les vendre, de les donner. 75% des gens qui achètent un livre ont comme objectif de le donner à quelqu'un à un moment donné.
Tu peux le dédicacer.
Ben oui.
Tu sais, tu peux donner un livre puis écrire dedans des petites choses puis le donner à quelqu'un. Tu peux pas faire ça avec une tablette.
Ben non, tu peux pas donner un livre numérique, effectivement. Tu peux le prêter, par exemple, ça se fait, là, certaines applications te permettent, t'es rendu pas mal avancé. Et également, l'odeur des livres est une des raisons. Tenir quelque chose dans ses mains nous permet davantage de s'évader de notre quotidien,
semble-t-il. Moi, je peux plus me concentrer.
C'est ça que les gens
disent. Parce que si je suis sur une tablette, je vais être distraite par d'autres écrans comme la télé, l'ordinateur, autre chose.
C'est ça que je trouve difficile. Il y a des gens qui aiment ça aussi, avoir l'objet physique comme un CD, comme un DVD. Mm-hmm. Les gens qui ont tendance à acheter ou à louer leurs films, mettons, de façon numérique, vont avoir tendance à lire aussi de façon numérique. Et ça, moi, ça me convient. C'est peut-être parce que j'haïs ça, accumuler des affaires. Je suis pas tant un ramasseux, moi. Puis le moins j'en ai, mieux je me sens. Il y a peut-être ça aussi, parce qu'on a déjà une bibliothèque de livres qui est remplie de livres que je ne lirai jamais encore dans ma vie, là. Mais je sais pas quoi faire avec ça. Puis je trouve que ça m'encombre, alors moi, j'ai pas besoin de ça. C'est les raisons pourquoi les gens vont lire des trucs de façon numérique.
Okay.
Et aussi, moi, ce que j'apprécie pour lire de façon numérique, c'est que mon livre me suit partout. Peu importe je suis où, je vais pouvoir l'avoir.
Tu peux l'amener, ton livre?
Ouais, tu vois, c'est exactement pour ça que j'ai pas de livre. Je trouve que c'est encombrant, puis
ben,
ça prend de la place.
Ben voyons donc.
Ouais. Puis moi, tourner. Moi, j'aime ça lire couché. C'est bizarre, hein?
Ben oui.
Mais moi, j'adore ça lire couché.
On peut lire couché avec un livre.
Ben moi, un livre qui me tombe dans ma face, je sais pas, ça me.
C'est vraiment des mauvaises raisons.
Tourner des pelles, là, les bras me deviennent engourdis. C'est peut-être juste parce que je suis pas en forme. Je suis pas assez en forme pour lire un livre en papier, mais c'est grave, mes affaires. On va se dire les vraies affaires. On est-tu écœuré des zooms, hein? On est-tu assez?
Oui.
Là, à un moment donné, ça fait. Mais bon, on n'est pas prêt d'enlever ça de nos vies parce qu'on s'est rendu compte que c'est très pratique et le télétravail n'est pas prêt de disparaître. Alors, on va être encore appelé. Je suis bien triste d'être l'oiseau de malheur qui va vous annoncer la nouvelle, là. Mais je pense que ça sera jamais sorti de nos vies, les vidéoconférences, pour 1 million de raisons. Ici, par exemple, à la station de radio, ben ça a développé vraiment un côté collaboratif que nous n'avions pas avec les autres stations à travers le Québec. Parce qu'on communiquait pas tant entre nous. Mais avec la vidéoconférence, ben c'est un point positif qui est arrivé. Alors, puis ça va être comme ça dans votre entreprise, j'en suis convaincu. Vous allez collaborer davantage avec des gens.
Ça va sûrement rester, là.
Oui,
c'est
ça.
Quand même.
C'est sûr que là, tranquillement, pas vite, on reprend nos quartiers habituels, on retourne au bureau.
Mais il y a encore
ça,
du télétravail qui se fait puis qui va se faire.
Oui, j'en suis convaincu. Puis il y a des entreprises qui sont en train de se questionner à savoir tous les pieds carrés que j'utilise et que je loue, est-ce que je vais continuer de les louer parce que le télétravail, c'est avoué efficace. Puis il y a des gens qui aiment ça encore, le télétravail. Mais le côté négatif, c'est qu'on est fatigué des vidéoconférences. Il y a des experts qui se sont penchés sur ce qu'on appelle la fatigue Zoom. C'est normal de ressentir une fatigue à force de faire des vidéoconférences. Ça peut être juste un par semaine, puis ça peut être suffisant pour vous tanner. Qu'est-ce qu'on fait pour contrebalancer cette fatigue Zoom? Hey, vraiment, là, d'excellents trucs. On s'est rendu compte que faire un appel vidéoconférence a de suscite chez nous de grandes ressources. Première chose, arrêtez de vous regarder dans votre caméra.
Ben oui, mais parce que c'est difficile de pas faire ça.
Oui, mais faites-le, parce que dans la vraie vie, là, il y a personne qui se promène à côté de vous avec un miroir quand vous êtes dans une conférence, en gang, en vrai. Alors, est-ce que c'est vraiment nécessaire? La réponse est probablement non. Deux, est-ce que vous avez vraiment besoin de faire une vidéoconférence? Est-ce que votre équipe pourrait simplement faire un appel conférence? Parce que ça existe depuis un méchant bout et ça vous permet d'être davantage mobile. parce que ce qui arrive, c'est quand on fait du télétravail, on est davantage sédentaire que nous l'étions avant, parce que au moins quand t'es au bureau, tu vas te chercher un verre d'eau, tu jases un peu à la machine à café, tu vas aller parler à quelqu'un, tu te lèves, tu vas à son bureau, tu jases, ben ça c'est quand même une certaine activité, tandis qu'avec le télétravail, on reste foiré sur notre bureau puis on bouge pas.
Moi, ce que
j'haïs
avec les zooms là, c'est que je me sens obligée de rester figée là, tu sais, ça me draine plus que, puis je me posais justement la question, je me disais comment ça, je suis autant brûlée après un zoom.
C'est exactement
contrairement
ça.
À admettons un meeting en gang, ça tire du jus, mais moins. Je me demandais pourquoi, ben là j'ai ma réponse.
Ben, c'est parce que t'as une conscience de toi-même aussi quand tu vois ton image à l'écran, puis c'est très drainant ça. Alors désactivez votre caméra. Moi, hey, c'est Amy.
Moi, mais désactiver sa caméra, c'est pas tout le monde qui veut ça là.
Non, non, t'as raison. Sauf que demandez-le si c'est possible. Puis je pense que collectivement, on gagne à faire ça. Moi, ça arrive souvent que je désactive ma caméra, puis tu vas trouver ça drôle. Ben là, peut-être moins, parce que je fais moins de télétravail, là. Mais ça arrivait qu'on avait des appels conférences. Moi, je désactivais ma caméra pour pouvoir aller monter dans la cuisine puis préparer le dîner. Parce que j'avais pas besoin d'intervenir.
Ah, mais là, t'as pas le droit de faire ça.
Ah, attends un peu.
Ouais, mais t'aurais pas préparé ton dîner si t'avais un meeting en personne.
Ah, ben, pourquoi
ben
pas?
Tu fais
d'autres choses. Mettons que t'es dans un meeting en personne, là, OK?
Ouais.
Est-ce que ça aurait pu être un courriel? Souvent, la réponse est oui. Bon, tu nécessites que je sois là pendant une heure et demie.
Mais là, tu mélanges les courriels là-dedans. Là. On parle pas de courriels.
Ben, tout ça pour dire qu'ils conseillent vraiment de faire autre chose pendant.
Ah ouais,
Si t'es en mesure d'être attentif, puis de comprendre, puis qu'on te pose une question, puis t'interagisse, faites-le, parce que c'est juste bon. On n'a pas besoin de solliciter notre image corporelle pendant une heure et demie de temps pour un appel conférence. Puis ça va grandement vous aider, puis même que ça va vous décharger de votre travail quotidien, de pouvoir faire autre chose, de partir une brassée de lavage, désactiver votre micro aussi.
Puis on a-tu l'air lette en zoom, sérieusement?
Ben oui. On a-tu vraiment besoin de la caméra? La réponse est non.
T'essayes de trouver un peu de lumière, t'as l'air cerné jusqu'en bas des genoux. Non.
La seule raison pourquoi on conseille vraiment d'activer la caméra, c'est des rencontres one-on-one. Parce que là, il y a vraiment une interaction.
Non,
tandis que quand tu fais juste recevoir l'interaction, à quel point c'est nécessaire que tu sois au courant que t'as une graine entre les dents puis que tu laisses ta caméra activée? La réponse est non. Faites autre chose pendant si vous êtes attentif. Allez-y de votre jugement, évidemment. Puis je pense que si tout le monde est permissif dans ces situations-là, ben tout le monde gagne au bout de la ligne, puis on va être pas mal plus motivé à en avoir. Voilà. Et maintenant, c'est le temps de s'informer. Nouveau info, Étienne Gagné.
Les officiers mécaniciens et de navigation de la Société des traversiers du Québec envisagent de mettre de la pression afin de convaincre l'employeur à négocier un nouveau contrat de travail qui est échu depuis avril 2020. Associés au syndicat des métallos, ça inclut les officiers de quelques traverses, dont celle de Matane-Bécomo-Godbout, Québec-Lévis et Tadoussac-Baie-Sainte-Catherine. Selon le représentant du syndicat, Luc Laberge, les employeurs refusent catégoriquement de reprendre les négociations. Le 30 avril dernier, le syndicat a demandé la conciliation afin de laisser place aux négociations, ce qui a mené une rencontre préparatoire au 12 juillet. L'employeur n'aurait cependant toujours pas reçu de mandat de négocier les questions monétaires par le Conseil du Trésor du Québec. Luc Laberge mentionne qu'il y a de l'inaction délibérée du gouvernement alors que plusieurs travailleuses et travailleurs du secteur public sont sans convention collective. La municipalité de Saint-Mathieu-de-Rio a été victime d'un vol à leur belvédère du 5e rang. La majorité des planches de bois ont été enlevées par le ou les malfaiteurs. La municipalité demande donc aux citoyens de garder l'œil ouvert afin de repérer ce type de bois et de retrouver les coupables. Des photos ont été publiées sur la page Facebook de la municipalité de Saint-Mathieu-de-Rioux. Le gouvernement Legault a conclu une entente avec le privé pour réduire la liste d'attente en radiologie. Selon le Devoir, 10 cliniques spécialisées se partageront 9,6 millions de dollars. Près de 160 000 Québécois attendent de subir un scan ou un examen en imagerie par résonance magnétique. Une épicerie ouvrira ses portes à Saint-Donat-de-Rimouski 10 ans après la fermeture de la dernière épicerie. Maxime Couture-Bouchard et Alexandra Marin-Aymont lancent le marché du coin. Avec 16 ans d'expérience dans le domaine alimentaire, en plus d'une formation de boucher, Maxime offrira un service complet à la clientèle avec plusieurs produits locaux d'entreprises de la région.
Ça arrive depuis plusieurs années d'avoir un commerce. On a décidé du jour au lendemain. On a dit go, ma femme n'était pas tout à fait d'accord parce qu'elle était enceinte, pas de sa tête. On a réussi à la convaincre puis à embarquer dans le projet avec moi. Là. Plusieurs fois, je passais devant le commerce puis que je disais tabarnouche, c'est beau, c'est bien placé. Il manque de quoi?
Lors de la mise en place du commerce, les propriétaires ont pu compter sur une aide tellement généreuse de la population et un nombre incalculable de mots d'encouragement tant en personne, au téléphone et sur les médias sociaux. Maxime Couture-Bouchard s'attend donc à une bonne réponse de la part de la clientèle. Ouvrir un commerce en temps de pandémie n'est pas une tâche simple, mais rien ne peut arrêter le couple de Saint-Joseph-de-Lepage. Il se considère comme quelqu'un qui fait pas les choses à moitié, tant d'affaires que du côté familial. Père de 7 enfants, il souhaite faire de son commerce un projet familial. Le marché du coin sera ouvert tous les jours de 8h à 20h et l'ouverture officielle est prévue dans la semaine du 2 août. Et finalement, Jérémy Gabriel envisage de se porter candidat aux prochaines élections fédérales dans la région de Québec. Selon Le Devoir, le jeune homme de 24 ans souhaiterait porter les couleurs du NPD dans la circonscription de Louis-Saint-Laurent, actuellement représenté par le conservateur Gérard Deltel. Jérémy Gabriel a déjà été attaché politique pour le NPD en 2019.
À surveiller en spectacle au cours des prochains jours, ben demain, il y a du côté du Vieux Théâtre de Saint-Fabien, le passage de Maude Audet qui va être présenté à 20h demain au Vieux Théâtre. De quoi bien commencer votre fin de semaine. Maude Audet qui a été fortement inspirée de la culture plus alternative des années 90, mais elle n'a jamais caché son amour pour le folk, le rock and roll. Alors, vous allez découvrir cette auteure, compositrice, interprète. D'ailleurs, son plus récent album a été réalisé par Ariane Moffat.
Quand même.
Alors, ça se passe demain, 20h au Vieux Théâtre de Saint-Fabien. Et j'attire votre attention sur un événement qui va se passer aujourd'hui. On sait que la ville de Rimouski a décidé d'investir dans ce qu'on appelle des déambulations surprises.
Oui.
Alors, des petits
des
concerts.
Des choses spontanées.
C'est ça. Ou encore des artistes de variété, de cirque qui se promènent dans les rues. Et ce soir, à compter de 18h, ça va se passer du centre communautaire de Saint-Pédis. En tout cas, le départ va se passer là. Vous allez pouvoir voir les entêtés. En fait, c'est les motards. Deux gars qui sont sur leur petit vélo. On les appelle les Harley Pedalson.
Ah ben oui.
Je trouve ça très, très divertissant. Ils sont là pour faire rire les gens. Ils vont se promener dans les rues, dans le quartier de Saint-Pédis. Vous allez voir, ils prennent leur rôle de clown très au sérieux. Alors, c'est une activité qui est gratuite. Si vous êtes dans ce secteur-là, ce soir, là, à partir de 18h, vous allez pouvoir les voir passer. Téléfilm Canada a fait une annonce plutôt encourageante en ce qui a trait au cinéma québécois et à la zone parité hommes-femmes, parce qu'on a atteint dans plusieurs secteurs la parité dans, entre autres, trois rôles clés du cinéma, c'est-à-dire la réalisation, la scénarisation, la production. La proportion des femmes dépasse maintenant le seuil de 50% selon les chiffres de Téléfilm Canada. Les films qui sont financés également incluent dans 70% des cas au moins une femme dans un des rôles clés et dans 54% des cas, deux femmes dans un rôle clé. Alors ça, c'est beaucoup plus que ce qu'on en a connu au cours des dernières années. Alors c'est quand même encourageant parce que même pour ce qui est du financement avec les réalisatrices, on atteint là, la zone qu'on appelle la zone paritaire. C'est sûr qu'il y a du travail à faire encore parce que à l'instant où le film dépasse les budgets, les gros budgets là, comme 2,5 millions de dollars, on n'a pas encore atteint cette parité-là, mais ça augmente, ça s'en vient, il n'en manque pas gros pour que ça se produise. Alors, on a toujours des défis évidemment à relever du côté du cinéma québécois, de Téléfilm Canada, et le prochain défi, c'est la diversité, c'est d'inclure davantage de diversité. On a encore beaucoup de travail à faire de ce côté-là, puis on en est conscient. On a présenté des premières images du film Dune de Denis Villeneuve auprès de certains journalistes chanceux qui ont été très impressionnés par les 15 premières minutes du film, parce que c'est tout ce qu'on a présenté. Le film est terminé depuis longtemps. On devait le présenter
avant la pandémie.
C'est ça. On a décidé de le reporter. Et ça promet là, pour ce film-là. Ben, c'est sûr que la campagne de promotion autour de Dune est quand même impressionnante aussi. C'est quelque chose de tout à fait... On va ailleurs avec Dune, qui est fortement inspiré du roman qui a été publié en 1965. Un gros roman, une brique de science-fiction de 600 pages, qui est devenu au fil du temps un des livres de science-fiction les plus vendus sur la planète, mais aussi un des livres les plus difficiles à comprendre, parce que les 100 premières pages de Dune, semble-t-il que c'est extrêmement difficile à comprendre. Faut relire, puis c'est pas le genre de roman probablement que tu comprends du premier coup.
Dans un monde parallèle aussi, ça fait penser un peu à Blade Runner, mais c'est un peu différent.
C'est ça, c'est une œuvre qui a des références philosophiques, sociologiques, politiques, religieuses, écologiques. Vraiment, là, on va toucher à plusieurs domaines avec cette œuvre-là. Et on avait déjà essayé dans les années 70 de faire un film avec Dune. On avait une distribution assez colorée, merci, avec Mick Jagger, Salvador Dali.
Ah,
et on n'a jamais réussi à sortir le film parce que c'était trop compliqué.
Ah, Ah ouais.
On était déçus du résultat et on n'a pas sorti le film, on a sorti un documentaire sur le film pour montrer à quel point c'était compliqué de faire un film avec Dune. Alors, c'est tout un défi que relève Denis Villeneuve. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ça va être présenté pour la première fois à la Mostra de Venise le 3 septembre, puis ça va être à l'affiche dans les salles de cinéma le 22 octobre. Signe que le vent tourne dans la condition de la chanteuse Britney Spears qui a pu enfin engager un avocat pour se défendre. Elle qui veut faire lever la tutelle qu'elle a depuis 2008, depuis sa chute aux enfers qui a duré un certain temps. Exactement. Elle a retrouvé hier le droit de conduire.
Arrête!
Elle avait même pas le droit
de
conduire.
Elle avait même pas le droit de conduire.
Elle pouvait pas sortir puis partir avec sa voiture.
Voyons donc, toi!
Elle avait probablement toujours un chauffeur, mais elle était... Tu sais, elle n'était pas libre, là. Elle pouvait pas conduire.
C'est une véritable prison, la tutelle. Puis normalement, aux États-Unis, quand quelqu'un est nommé pour être dans une tutelle, il s'en sort pas, hein. Les statistiques, là, normalement, c'est pour la vie.
OK.
Alors, c'est peut-être pour ça que c'est à ce point difficile.
C'est possible. Mais là, il y a déjà une autre petite victoire. Tu sais, on les savoure toutes.
Ben oui.
C'est sûr que Britney a mis un peu de pression en disant, ben moi, je ne veux plus faire de spectacle tant et aussi longtemps que mon père, lui qui, c'est lui qui contrôle tout, décide de ce que je vais porter, de quelle chorégraphie je vais faire.
Oui, parce qu'elle n'a aucun pouvoir artistique. Là. Il y a bien une limite à la tutelle. Là.
Non, c'est ça. Et on apprend aussi des choses. Il y a comme des choses qui ressortent parce qu'il y a quelques années, Britney Spears, ça avait fait les manchettes, elle s'était mariée à Las Vegas avec supposément un de ses meilleurs amis.
Ouais.
Et je pense le lendemain ou deux jours plus tard, elle avait demandé le divorce. Puis on s'était dit c'est bizarre, tu sais. Puis finalement, ben c'est sa mère, c'est sa famille qui l'avait forcée à divorcer de son ami. Alors là, on se dit, est-ce que c'était vraiment son ami ou c'était vraiment son chum? Puis ça, il tentait de se marier. Puis finalement, ben elle a dû...
C'était peut-être une technique pour elle aussi d'essayer de s'en sortir. Hein?
Mais c'est sûr que c'est le fait qu'elle l'a annulé peut-être deux jours après.
Sous la pression de sa famille.
Ben tu sais, ça l'a encore fait passer pour une fille instable.
Ben oui, puis pourtant, ses plans étaient clairs. Elle est fatiguante, pauvre elle.
Alors, c'est ça, elle a 39 ans, Britney, et peut-être qu'elle va réussir à faire lever cette fameuse tutelle. De plus en plus, il y a certaines étapes là, qui sont franchies, mais la route est longue.
Si on veut la retrouver dans son art et au sommet de son art, il va falloir que ça arrive également.
L'artiste canadien Justin Bieber a établi un nouveau record aux États-Unis. Il devient le plus jeune artiste solo à atteindre 100 entrées dans le Billboard Hot 100.
Ah ouais, hein?
Donc ça veut dire qu'il y a 100 chansons de Justin Bieber qui sont entrées dans le Hot 100. C'est incroyable. En fait,
il a fait 100 chansons déjà là, je suis comme wow!
C'est surprenant, mais tu sais, ça fait quand même 12 ans
que
Justin Bieber fait de la musique. Ça lui a pris 12 ans pour atteindre ce titre à 27 ans, 4 mois et 3 semaines seulement. Et il déloge du même coup un autre Canadien qui avait le record qui s'appelle Drake.
Ah ouais.
Qui lui avait le record depuis 2015, mais là, Justin Bieber l'a devancé. Cependant, Drake détient un record qui ne sera peut-être jamais battu par Justin Bieber, c'est-à-dire le plus grand nombre de hits au Billboard. Et là, tu vas être surpris, tu étais surpris des 100 hits de Justin Bieber. Imagine-toi donc que Drake a 235 hits à son actif.
Ben voyons donc, toi, je sais qu'il faisait beaucoup de collaborations, tu sais, ça aide, là.
Je savais même pas qu'il y avait 235 chansons.
Ah, ben ouais.
Je comprends pas.
Hey, je veux dire, depuis qu'on est à Rouge, on a fait 660 émissions. Puis, tu sais, on en fait une à tous les jours. Eux autres, il me semble que 200... Hey, tab!
C'est des machines à hit, là. Hey, ça va être dur à battre.
Là qu'on se rend compte qu'on a l'impression qu'on se pogne les faufounes. On devrait être plus productif que ça, clairement.
Oui, mais on fait pas de la musique, Jay. Hein?
Non, clairement.
Non, loin de là.
T'essaies-tu de m'envoyer un message?
Non, pas du tout.
J'ai déjà un album à mon actif, soit dit en
oui,
passant.
Oui, c'est vrai.
Ah ouais, il a été vendu 3 fois sur Bandcamp.
Oui, j'y participe un peu, d'ailleurs.
Oui, t'as une collaboration avec plein d'artistes, dont Benji. Bon, c'est grave. On est à la sortie d'On est tous debout. On va se retrouver demain dès 5h25 avec une foule de cadeaux à gagner.
Oui, on vous donne demain un laissez-passer quadruple. Ça, laissez-passer quadruple.
Oui, c'est confirmé.
Wow! Pour aller au cinéma, hey, alors manquez pas ça.
Belle sortie familiale sur notre bras grâce au 102.9 Rouge.
Et en plus, on va jouer au quiz malpropre
oui,
demain.
Parce que c'est vendredi.
Ben oui.
Faut amorcer le week-end dans la malpropreté. On a comme ça ici au 102.9 Rouge. Passez une excellente journée. À demain!
Oh yeah! On est tous debout!